Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Balades en été nous emmène aujourd'hui, devinez où, très loin, à Chartres. Mais Chartres au fil du temps, le passé de Chartres, finalement, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins lorsqu'on habite la cité des Carnutes. Et Véronique Domagalski, guide conférencière à l'office de tourisme de Chartres Métropole, a bien voulu nous rafraîchir la mémoire en nous offrant deux balades estivales dans les rues de Chartres. Avec toutes les précisions historiques qui s'imposent. Allons, c'est parti.
Bonjour Véronique Domagalski.
Oui, bonjour Christophe.
Je rappelle que vous êtes guide, conférencière, mais aussi comédienne, puisque vous faites des visites comme une comédienne de la ville de Chartres. Et chaque année, je vous mets à contribution. Alors, je vous en remercie au nom des auditeurs de Radio Ranciel. Et vous allez nous offrir une partie de la visite, pas toute, parce qu'elle fait 2 heures, cette visite, de Chartres à travers le temps. Hein, c'est ça, Chartres
voilà.
Au fil du temps.
C'est Chartres au fil du temps, parce qu'en fait, on va voyager entre Moyen-Âge, la période classique, la Renaissance, bien sûr. Et puis, on va aller même jusqu'au 21e siècle, puisque je parle de street art.
Alors, commençons cette visite.
Oui.
Où démarre-t-on ?
Ici, Maison du Saumon, cette magnifique maison à colombage, à pans de bois, que d'aucuns appellent une maison médiévale, sauf qu'elle est du XVIe siècle, et forcément, on est plus vers la Renaissance, hein, ici. Ici, cette maison était les échoppes des poissonniers. Hein, on avait le rez-de-chaussée qui était réservé à l'ouvrage. Et ici, évidemment, on montre le saumon, qui est juste là, ce magnifique saumon sculpté qui rappelle l'enseigne des poissonneries. D'où l'expression « le jet à la même enseigne ». On avait deux poissonniers qui partageaient, qui payaient l'enseigne ensemble.
Qu'est-ce que j'apprends avec vous ?
Et oui, il y a beaucoup d'expressions médiévales qui nous viennent comme ça avec tous ces métiers. Ce que je donne comme règle pour la plupart des gens qui viennent à Chartres, et nous on a conservé la toponymie en fait des lieux, c'est qu'une rue, un métier, une rue, une activité. Ici, on avait la rue de la Volaille, qui était l'endroit où on trouvait les cocassiers, les marchands de volailles.
Est-ce que cocasse, ça vient de cocassier ?
Non, ça ne s'écrit pas pareil, c'est C-A-U, hein, cocassier. L'étymologie est assez trouble. Certains disent que ça viendrait du coq, mais bon, le coq ne s'écrivant pas pareil, on n'a pas trop l'origine du mot. Ici, donc, on avait tout le quartier du négoce, ce qui distingue la ville haute et la ville basse. Ville haute, ville des marchands, ville basse, ville des artisans. Voilà.
Et les plus riches, c'était les marchands, j'imagine. Non, pas forcément.
Pas forcément, parce que les artisans, les tanneurs, étaient vraiment, vraiment très riches. Tanneurs, fourreurs, c'était eux qui vendaient les fourrures, qui vendaient les cuirs. C'était quand même des métiers qui avaient pignon sur rue, pas n'importe qui. En revanche, en ville haute, on pouvait avoir les petits valets. Les valets, ce sont ceux qui travaillent pour un maître, qui travaillent, par exemple, pour le poissonnier, qui travaillent pour le boulanger. Mais lui ne possède pas son revenu, il ne possède pas sa maison pour travailler. Donc évidemment, c'était des petites gens qui pouvaient habiter aussi en ville haute.
D'accord. Donc voilà, ville haute, ville basse, c'est pas forcément une différence de classe, voilà.
Non, c'est plutôt une différence d'activité. C'est que les métiers de la ville basse, les métiers d'artisans, avaient besoin de l'eau pour travailler. Donc c'est d'ailleurs souvent, on dit au fil de l'eau quand on était en ville basse, parce qu'on avait les tanneurs, les corroyeurs, les mégissiers, tous ces métiers du cuir, les foulons, donc qui s'occupaient du drap, et les teinturiers qui mettaient de la couleur. D'ailleurs, nous terminons notre parcours de visite par ce quai des teinturiers où on mettait toute la couleur sur la laine, sur le drap, après l'avoir vraiment filé et puis tissé.
Tout était fait comme ça à Chartres.
Voilà. Oui. On avait vraiment toutes les activités pour une ville. Mais les villes vivaient un peu comme ça, comme on appelle en autarcie, puisqu'on avait obligation d'avoir toutes ces ressources sur place. On n'allait pas chercher trop loin, les importations n'existaient pas beaucoup. Il y avait guère que le vin qui était quelquefois ramené du sud, même si on avait quelques vignes par ici.
Alors, bonne question. Donc, il y avait des vignes ici à Chartres.
Il y avait des vignes. Regardez sur la maison du saumon là-bas, vous avez des vignes avec l'escargot. Et on a évidemment au niveau du Centre international du vitrail, le grenier et le cellier. Cellier où on entreposait le vin. On a une rue du Faubourg-la-Grappe, une rue de la Tonnellerie. Donc les métiers de la vigne étaient importants. La vigne remontait jusqu'au nord de Paris, donc on en avait. Sauf que pour le vin, on ne le consommait pas pur. On mettait de l'eau, du miel et on rajoutait des épices dedans. ce qui permettait d'avoir un vin un tout petit peu plus intéressant et beaucoup plus goûteux que ce que n'était le vin à l'état pur, parce que évidemment ça ressemblait plus à du vinaigre. La petite légende dit d'ailleurs que les Chartrains auraient jeté des tonneaux de vin au moment de l'épidémie de peste dans la rivière. On aurait jeté ce vin pour pouvoir assainir la rivière.
Bah oui, et puis on sait que le vinaigre pour la peste,
voilà, c'était bon.
Alors là, on commence à cheminer.
Voilà, on chemine là vers la cordonnerie, la rue de la cordonnerie, parce que nos pèlerins, lorsqu'ils arrivaient, la première chose qu'ils faisaient, c'était ressemeler les chausses. Donc on allait dans cette rue de la petite cordonnerie, et les cordonniers n'étaient pas les plus mal chaussés. Hein. C'était un métier qui était véritablement bien en vue. Alors, je ne vous ai pas montré, Christophe, la petite sculpture qui intéresse souvent les Chartrains, juste à l'angle de la ruelle du Poisson Doux, nous avons notre petit personnage, les fesses à l'air. Il a baissé ses bras, ses pantalons, et il nous montre son derrière. Alors, c'est le déféquant. Il fait ses besoins dans la rue. Ça nous rappelle que la propreté, jusque sous l'Ancien Régime, c'était pas vraiment un souci de salubrité publique, puisqu'on jetait le pot de chambre du matin par la fenêtre. D'ailleurs, quand on fait les visites avec les enfants, on en parle. On leur fait crier 3 fois garde-sous, hein, pour éviter d'arroser les gens. Et on avait comme ça ces petites sculptures qui rappelaient cette propreté. Qui nettoyait la rue au Moyen-Âge ? Les cochons. Les cochons se promenaient dans la ville et le cochon, ça mange tout. Attention, pas de pavé hein, au Moyen-Âge. C'était de la terre battue. Donc imaginez quand il pleuvait, avec tout ce qu'on jetait par la fenêtre, c'était assez sympathique. Hein. Fallait avoir de bons sabots.
Les effluves devaient être assez particulières.
Hein. Assez particulières. D'ailleurs, ce tertre, à un moment donné, le tertre de la poissonnerie, dans l'histoire, a été surnommé le tertre aux rats. En raison certainement de la quantité de ces petites bêtes qui y pullulaient. Alors ici, j'aime beaucoup passer dans cette petite rue de la cordonnerie parce que, en fait, on a un point de vue sur la cathédrale. Ça nous permet toujours de faire une petite pause, d'expliquer l'histoire de la cathédrale, les deux flèches dissemblables, la rose sud qui a été nettoyée. Vous voyez, on est toujours dans ce lien, cette proximité entre la ville et le monument.
Et c'est un quartier qu'aiment bien les touristes, hein, parce que ce sont des toutes petites ruelles, c'est très charmant. Hein.
Voilà, là je viens justement de terminer une visite, et nous sommes passés par ici, et je peux vous dire que c'est l'endroit où les appareils photo ont fleuri, parce que les gens justement aiment beaucoup ces maisons à l'ancienne. Alors il faut savoir qu'à Chartres, le pan de bois, d'ailleurs on le voit avec cette maison, hein, on a une structure tout en bois, et le pan de bois a été recouvert d'un crépi. En fait, Henri IV, qui a été couronné à Chartres, nous a apporté comme cadeau un ministre formidable qui s'appelait Sully. Et Sully, monsieur de Sully, trouvait que les villes brûlaient un peu vite. Et il a fait promulguer une loi pour demander aux villes de recouvrir les colombages d'un crépi, d'un enduit, pour les protéger du feu. Et la ville de Chartres a été une des rares villes de France à avoir appliqué la loi Sully.
Il y a un petit restaurant qui s'appelle le Sully, donc est-ce que c'est parce qu'il est connu ici à Chartres ?
Certainement, oui, certainement. Et puis bon, il avait quand même le château de Villebon à côté. Il avait des propriétés dans les environs, donc Sully n'était pas un inconnu pour la région. Henri IV a été couronné à Chartres, donc évidemment, lien très très fort entre ces personnages et notre ville. Alors nous voici dans la rue Aulet, la fameuse rue Aulet, où se trouvaient les laitiers, les crémiers, marchands de beurre, marchands de lait. Mais regardez sur le sol, porte de la fruiterie. Ben, on avait les fruitiers. Le fruitier, c'est celui qui affine le fromage. Pensez aux fromagères dans le Jura, les fruitières, cet endroit où on affine le fromage. Eh bien, ici, on avait nos fruitières.
Finalement, c'est comme un immense atelier, Chartres. Les teinturiers sont à côté des tanneurs, les fruitiers à côté des crémiers.
On est... Exactement. On avait vraiment par activité, par type d'activité, on travaillait, c'était pas nouveau, en réseau. Hein, les réseaux nous semble très contemporain, mais finalement, dès le 12e-13e siècle, on avait cette notion de travailler ensemble et d'avoir besoin de l'autre métier pour pouvoir parfaire le sien. Alors, on parle toujours ici des portes, puisqu'on avait 9 portes qui enserraient le quartier cathédral. Donc, on en montre certaines. Ici, la porte de la fruiterie. Plus loin, la porte d'échange. J'évoque quelquefois la porte de l'étroit degré. L'étroit degré parce que elle était très étroite et il y avait 3 marches pour grimper. C'est la seule rue de Chartres où on peut faire une faute d'orthographe et vous serez toujours pardonné.
Là, on a une très jolie vue sur le portail sud.
Oui, donc la rue aux Herbes nous donne ce point de vue sur la Rose. C'est là que l'on voit que la pierre blanche étincelle sur la Rose, tandis que le portail n'a pas encore été nettoyé. Ça va venir. Hein. On nous dit que bientôt, il y aura certainement la pierre qui va retrouver sa blancheur et peut-être même ses couleurs, parce qu'on a certainement quelques traces de polychromie, comme au portail nord. Mais côté sud, elles ont moins pris l'humidité, donc elles seraient peut-être un peu plus visibles que côté nord.
Cette blancheur de la cathédrale, c'est celle que voyaient les habitants
Pour la pierre, oui, pour les murs, mais pas pour les sculptures. La statuaire était peinte. On avait véritablement de la couleur sur les statues. Et ça, on le sait, on le présumé déjà, mais on le sait véritablement depuis qu'on a nettoyé le portail nord, où on voit ces petites traces de polychromie par-ci, par-là, et ça a été vraiment une grande richesse pour tous ceux qui s'intéressent à l'édifice, et d'ailleurs quand on a nettoyé l'intérieur aussi, on a ces traces de polychromie.
Ce qu'on peut dire quand même aux Chartrains ou aux touristes, c'est que les statues retrouvent leur couleur la nuit grâce à Chartres en lumière.
Oui, la nuit grâce à Chartres en lumière, on retrouve, particulièrement sur le portail nord, allez, je vais être un peu vilaine avec nos scénographes qui sont merveilleux. Sur le portail nord, c'est un endroit sublime. La couleur étincelle, les statues retrouvent véritablement comme leur peinture d'antan. Mais nos scénographes, dans un souci de parfaire le lieu, ils ont fait comme une enluminure où on ajoute de l'or, la couleur dorée sur les colonnes, sur les petites corniches, sauf que la couleur dorée était peu utilisée au niveau des peintures des cathédrales. On blanchissait les murs à la chaux, on terminait toutes les parties lisses justement en blanc, mais tout le reste était peint, couleur rouge, bleu, jaune, vert, toutes ces couleurs chatoyantes, mais le doré, c'était juste quelquefois pour l'auréole du Christ, et encore, et encore. Alors ici, c'était la rue aux herbes, où on venait chercher ses légumes, mais également ses épices, et où on venait pour se soigner. On avait les apothicaires qui étaient dans le quartier. Et puis, quand on était aussi belle dame, on venait pour chercher son parfum. Alors au départ, c'était du parfum en pochon. On avait des petites poches de lin dans lesquelles on mettait des fleurs, des épices, et puis on mettait cela autour du cou. Alors les plus belles dames avaient des petites boules à parfum ouvragées en or, en argent massif, et dedans on mettait la boule de lin avec les épices, etc. C'est ce qu'on appelait les pomanders, les boules à parfum, et ça permettait de sentir bon tout le temps.
Et les gens en profitaient dans la rue aussi, quand les femmes prenaient.
Bien sûr, hein, on en profitait, et puis on avait aussi dans cette rue tout ce qui était nécessaire pour se soigner, parce qu'on se soignait avec les plantes. C'était là l'important.
On prenait soin de soi, hein, tout autant qu'aujourd'hui.
Au Moyen-Âge, on prenait vraiment soin de sa peau, soin de son corps, puisqu'on se lavait. On avait des étuves dans la ville, et ça permettait aux gens de se laver. Alors l'eau était très très chaude, on mettait des baquets, hein, et puis on se lavait en famille. On avait une promiscuité quand même qui était déplaisante pour l'Église. Hein. L'Église n'appréciait pas trop cette promiscuité, et c'est pour cela que petit à petit les étuves vont fermer, et qu'à la Renaissance, on va oublier de se laver. D'où la nécessité des boules à parfum à la Renaissance. D'ailleurs, je vous montre, Christophe, allez, pour nos visiteurs, ça sera lorsqu'ils viendront. Mais regardez ces belles dames de la Renaissance.
Elles sont superbes, ces boules à parfum.
Regardez, et là, celle-ci, raffinée, hein, elle avait besoin de sentir vraiment bon. Elle a une ceinture avec une dizaine de petites boules où elle mettait tous ses parfums.
Et on les fabriquait ici, non? C'était le boule à parfum.
On fabriquait dans toutes les villes. Hein, chacun avait ses joailliers, hein, qui fabriquaient ses boules à parfum. Alors on va avancer dans la rue au lait maintenant, qui va nous entraîner vers une maison sur la gauche, une magnifique maison de pierre. Bon, il y a une structure de bois bien évidemment, mais majorité de pierre ici, où on peut voir des fenêtres à meneaux. Regardez bien Christophe, ici on a plusieurs fenêtres à meneaux.
Vous les voyez ? Le meneau, c'est quoi exactement ?
Le meneau, c'est ce qui sépare une fenêtre. Maintenant, vous avez une fenêtre de bois, vous avez des barres de bois hein, qui les séparent, donc les meneaux, comme un croisillon. Et ici, ce sont des croisillons de pierre. Sauf que, sous Philippe le Bel, on a initié un impôt sur les fenêtres. Et qui dit meneau de pierre, dit mur. Donc, quand on a une fenêtre à meneaux, donc quatre ouverture, eh bien c'était quatre fenêtres. Donc on payait pour quatre fenêtres et non pour une. Donc autant vous dire que là, le propriétaire de la maison payait beaucoup. Il avait pignon sur rue.
Et on sait que Philippe le Bel aimait l'argent. Hein.
Oui, il aimait l'argent. Donc on a eu les Juifs qui en ont souffert, les Lombards et finalement les Templiers qui ont été les derniers à pâtir de l'affaire. Donc après, on a eu cet impôt sur les fenêtres qu'il a initié. Alors il a beaucoup plu cet impôt à ses successeurs. Il ne plaisait pas qu'à Philippe le Bel, puisque l'impôt sur les fenêtres a disparu en 46. 1946. C'est la libération qui a libéré les habitants. Et pour anecdote, d'ailleurs, dans beaucoup de villes, on voit des façades où on n'a qu'une fenêtre. Parce que le propriétaire avait muré, d'ailleurs on voit quelquefois des traces de murs hein, qui ont été refaits, du briquetage, et on ouvrait sur l'arrière, sur le jardin, parce que évidemment on ne payait pas sur l'arrière, on payait sur la façade, d'où le fait d'avoir pignon sur rue. Pignon sur rue, tout est ouvert sur la rue. Et là on payait l'impôt.
Hein. Et là on payait l'impôt, oui. Cette maison est magnifique, hein, oui.
Et ce qu'il y a de bien dans cette promenade, c'est que cette rue Aulée, souvent les touristes, les visiteurs ne passent pas. Il n'y a guère que les chartrains qui la connaissent. Et là, justement, le fait d'emmener les gens, de leur expliquer la rue, de dire qu'il y a plusieurs niveaux de caves au niveau de ces maisons, qu'on a quelquefois des maisons avec 4-5 niveaux de caves hein, dans cette rue, eh bien ça surprend et elle prend un autre cachet.
Ouais. On est dans un quartier où il y a des souterrains, hein, ici, je crois.
Hein. Oui, alors ce ne sont pas des souterrains, ce sont des caves. À chaque fois qu'une maison brûlait, on reconstruisait par-dessus et on rajoutait un niveau. Donc ce qui fait qu'on a eu plusieurs niveaux de caves qui se sont faits et certaines caves peuvent communiquer entre elles. D'où la légende du souterrain, mais il n'y a pas de souterrain.
Oh, zut alors.
Pas de souterrain, Charles.
Donc on ne peut pas aller à la cathédrale sous terre.
Non. Alors évidemment, ce qui a forgé un petit peu cette idée populaire, c'est que la cathédrale possède la plus grande crypte de France, troisième crypte au monde après Saint-Pierre de Rome et Canterbury. Et ici, forcément, cette crypte immense, on se dit, bah, il doit y avoir un réseau qui y mène. Et comme dans les rues adjacentes, on a de nombreuses rues où il y a les maisons avec des caves profondes, certains se disent, ça doit arriver à la cathédrale, ça doit, mais ça n'arrive pas.
Ah zut alors.
Encore une porte là sur le sol, la porte d'échange. Là, ça nous indique que nous rentrons dans le quartier des banquiers, les changeurs de monnaie. Les pèlerins, lorsqu'ils arrivaient, venaient de Catalogne, ils venaient de Provence, ils venaient d'Angleterre ou même de Pays-Bas. Et forcément, les monnaies étaient différentes. Mais même si vous veniez d'Aquitaine ou de Bretagne ou de Picardie, vous auriez eu une monnaie différente. Donc ici, nos changeurs recevaient ces pèlerins, peser la monnaie avec une balance qu'on appelle un trébuchet, d'où l'expression monnaie sonnante et trébuchante. Et puis ici, forcément, eh bien, on les accueillait, ils passaient la porte d'échange et ils allaient à la cathédrale.
J'imagine que c'était un quartier ici très populaire. Est-ce qu'il y avait autant de pèlerins qu'il y a de touristes aujourd'hui, par exemple, autour de la cathédrale?
Certainement. On triplait la population au moment des grands pèlerinages. Les pèlerinages, c'était surtout le mois de mai. C'était ensuite le mois d'août, évidemment, l'Assomption. Mois de septembre, naissance de Marie. Et là, on triplait la population. Vous imaginez? Il y avait des pèlerins qui dormaient dans tous les établissements religieux, mais également dans la cathédrale. Donc évidemment, c'était une source de grande richesse pour la ville. Alors, moi j'évoque toujours, quand on est ici, sur le côté gauche du cloître, on a l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est maintenant l'école du vitrail, c'est là qu'il y a le campement médiéval pendant toute la saison, hein, ce campement qui invite les bambins à jouer aux chevaliers. Et ici, eh bien, à cet emplacement de l'Hôtel Dieu, au bout, on avait une autre porte, la porte de l'Hôtel Dieu. Et cette porte, toute petite porte, n'était presque jamais ouverte, sauf quand il y avait des morts à l'Hôtel Dieu. C'était la porte des morts.
La porte des morts.
On sortait les morts par cette petite porte.
Donc j'imagine que les gens devaient penser qu'elle portait malheur peut-être aussi.
Exactement, c'est pour ça qu'on l'a laissée un petit peu de côté, à l'écart des grands passages. Et d'ailleurs, on n'y passe pas souvent à la porte de l'Hôtel Dieu. Elle est tout au bout de l'autre côté. Alors, ce qui est très intéressant dans cette rue, c'est que ici, elle était rue d'échange, mais quand les monnaies ont été unifiées, que les changeurs ont disparu, on a eu d'autres métiers qui sont arrivés, et là, c'était le domaine des imprimeurs. On a eu beaucoup d'imprimeries qui sont installées dans cette rue, et celle-ci, c'est un antiquaire, mais c'était la dernière imprimerie qu'il y a eu dans cette rue. Elle a fermé, si ma mémoire est bonne, à la fin des années 80. Même début des années 90, je crois.
Donc la tradition des imprimeurs a duré très longtemps ici.
Et oui. Oui, on avait de nombreuses imprimeries ici. Alors parce que forcément, on était près de la cathédrale, donc on avait besoin de livres, on avait besoin des associations chercher des affiches, etc. Donc on avait vraiment toute cette activité tout autour du quartier cathédrale.
Mais dites-moi, Véronique, c'est pas ici que se situait à peu près le château de
Chartres ? Nous sommes juste en face. Regardez là, ici, cette halle de type Baltar, mais c'était l'emplacement du château comtal. Donc château comtal avec un donjon, avec sa chapelle, mais c'était un château de petite structure. Il ressemblait au château de Chinon, pour vous donner une idée.
Mais c'est déjà un beau château, le château de Chinon.
Petit, en plus petit que Chinon. Ici, on parle des comtes de Chartres, des comtes de Blois, puisqu'au départ ils étaient comtes de Blois, ils possédaient Chartres, ils ont étendu leur domaine à force de ruse, à force de savoir-faire. On en a eu un, Thibault, qu'on avait appelé le tricheur, qui avait épousé une certaine Lutgarde de Vermandois. Oui, quel nom un peu étrange. Lutgarde était le prénom à la mode à l'époque. Nous sommes à l'aube du 10e siècle. En épousant notre Lutgarde, eh bien Thibault fait ce qu'on appelle un mariage utile, puisqu'il se positionne comme héritier du comté de Champagne si les comtes de Champagne meurent sans héritier mâle. Ce qui est arrivé rapidement, à un moment donné, eh bien, les comtes de Chartres et de Champagne ne faisaient qu'un. On avait un très grand comté qui englobait Blois, donc Chartres. Au sud, on avait Tours également, Vierzon. Mais on avait de l'autre côté de Paris, Provins, Châlons-en-Champagne et Troyes. Que des villes très pauvres. Les comtes étaient vraiment à faire pitié.
Est-ce que le Champagne existait déjà ? Non, pas encore.
Non, pas encore. Dom Pérignon, c'était un peu après. Mais la Champagne, c'était surtout les foires de Champagne, les grandes foires, les grands marchés. C'est pour cela qu'ici, on avait une région très agricole, une région très fertile. Donc on vendait beaucoup de l'autre côté. Et comme on était du même comté, on vendait sans taxes. Ce qui était tout le bénéfice pour le comté de Chartres et de Blois, d'avoir justement une possibilité de vendre sans taxes.
Pourquoi la population en profitait de cette richesse ?
Exactement. Enfin, il y avait peu de chômage, dirons-nous. Et puis surtout que la ville mangeait bien. Il y avait quand même une bonne richesse. C'est ce qui a permis aussi de construire la cathédrale, cette grande richesse. Donc il faut voir aussi que les gens vivaient bien. Il y avait des pauvres. Mais par rapport à certaines régions, pas tant que ça.
Ouais. Bon, bah donc Thibault le tricheur est pardonné alors.
Voilà, on lui pardonne, même si c'est un sacré personnage. Il était tout le temps en guerre contre quelqu'un. Il était en guerre particulièrement contre les Angevins, Foulque et son fils qui s'appelait Eudes de Chartres, qui avait épousé la reine Berthe, l'escalier de la reine Berthe en bas. Et Eudes, eh bien, s'était mis en guerre contre Foulque Néra, Foulque le Noir, qui était remonter jusqu'à Chartres. Les Angevins, on ne les aimait point dans la région. Donc ici, eh bien, le château a duré jusqu'au temps des comtes, il servait évidemment de logis, mais lorsque les comtes ont été rattachés, le comté a été rattaché à la couronne, le château a servi de lieu pour la prison et le tribunal. C'était le siège du bailliage de Chartres, pouvoir royal. Vous pensez bien qu'après la Révolution, après l'histoire de la terrible bande d'Orgères...
Un livre récemment a été écrit.
Oui, on parle de cette histoire de la bande d'Orgères et on donne des hypothèses. Alors chaque période a son hypothèse par rapport à Beaufrançois, qui se serait évadé du château d'ailleurs.
Apparemment, on quittait le château assez facilement, c'était un peu...
C'était un peu le pavillon des courants d'air, hein, le château, au moment de la Révolution. Mais il faut savoir que c'était vraiment une forteresse qui n'avait pas été entretenue. Après, c'est devenu l'abattoir. Et puis enfin, c'est devenu la place du marché, telle qu'on peut la voir maintenant, avec cette halle couverte qui a été rajoutée, évidemment, au début du XXe siècle.
Comment a-t-il été démoli?
On l'a démantelé pierre par pierre. Et on a même récupéré quelques pierres pour faire des premières bordures de trottoir à Chartres.
C'est dommage, on aurait eu un château à côté de la cathédrale, mais
oui,
bon...
Oui, mais il ne devait pas être en très bel état. Sincèrement, je pense qu'il n'aurait pas rajouté à la beauté du cadre, parce que vraiment, c'était une ruine.
Gardons un peu de chemin sous nos semelles en prévision de l'émission de la semaine prochaine. Ce sera le dernier balade en été et nous continuerons d'explorer Chartres au fil du temps en compagnie de Véronique Domagalski, guide conférencière ô combien talentueuse de l'Office du tourisme de Chartres Métropole. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous, à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel bien évidemment, et à la semaine prochaine.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon. À 5h j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran.